Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, merci d'être avec nous et bienvenue à tous. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, heureux de vous retrouver, de retrouver les auditeurs et auditrices bien sûr.
Vous le savez déjà, mais je vous le dis quand même, je le répète, c'est toujours une immense joie de vous retrouver chaque semaine pour cette émission.
Une joie partagée, bien entendu.
Et nous allons commencer avec le sommaire de ce numéro du débat BBC Afrique Africa numéro 1 Paris. Le dialogue politique est-il encore possible au Togo? L'opposition a accepté de suspendre les manifestations pour participer au dialogue piloté par le président ghanéen. Mais depuis quelques semaines, celui-ci est au point mort. Résultat, retour à la rue pour l'opposition. Mais cette fois, il semble que la mobilisation a été moins importante de l'avis de certains. L'opposition partageait-elle ce même constat? Va-t-elle revoir sa stratégie ou plutôt ses exigences? Qui est responsable du blocage du dialogue politique au Togo? Débat à suivre. Une intervention de la MINUSCA, la force des Nations Unies en Centrafrique à PK5 à Bangui, pour tenter d'arrêter les chefs des milices armées qui contrôlent ce quartier de la capitale, a tourné au drame. Une vingtaine de civils ont été tués et les populations en colère ont exposé leurs corps devant le bureau de la mission onusienne à Bangui. La MINUSCA a-t-elle perdu la main face aux groupes armés qui écument le pays? Analyse à suivre. Les États-Unis ont levé l'interdiction d'entrée sur leur territoire qui avait été imposée aux Tchadiens. Selon Washington, N'Djamena a répondu aux exigences demandées. Le Tchad a mis à niveau ses normes de sécurité qui sont désormais conformes aux exigences de base de la sécurité nationale américaine. C'est ce que souligne Washington. Les Tchadiens peuvent donc de nouveau solliciter des visas d'entrée aux États-Unis. Le plateau, c'est avec vous, Francis Laloupo.
Oui, Liliane, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Lomé, Kafui Brigitte Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la coalition de l'opposition au Togo. Madame Adjamagbo Johnson, bonjour.
Bonjour, monsieur Adjamagbo.
Merci d'être avec nous. Et notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Bangui, Emmanuel Cyrus Sandi, directeur de la publication et rédacteur en chef du quotidien Média Plus. Emmanuel Sandi, bonjour.
Bonjour, monsieur Francis. Bonjour à tous les intervenants et à tous les auditeurs de BBC.
Merci beaucoup.
Et de l'Africa numéro 1 Paris.
Léger décalage à cause de la distance, bien sûr. Petite fiche de présentation, comme de coutume, de notre grand témoin invité, Brigitte Adjamagbo Johnson, titulaire d'un doctorat en droit à l'Université de Paris 1. Vous vous êtes engagée dans l'action politique dans le milieu des années 80 et vous serez notamment membre fondatrice de la Convention démocratique des peuples africains, la CDPA, premier parti de l'opposition créé alors dans la clandestinité et dont vous êtes aujourd'hui la secrétaire générale depuis 2012. La CDPA est une formation membre consultatif de l'International Socialiste. En 1991, vous serez rapporteur général du bureau provisoire de la Conférence nationale souveraine du Togo. Vous occuperez ensuite le poste de ministre du Bien-être social, des droits de l'homme et de la solidarité nationale du premier gouvernement de transition au Togo. En mars 2010, vous êtes la première femme candidate à l'élection présidentielle dans votre pays sous la bannière de la CDPA depuis août dernier. Dans le contexte de la crise en cours dans votre pays, vous êtes la coordinatrice de la coalition de 14 partis de l'opposition, donc 14 partis de l'opposition au Togo, une coalition en conflit avec le pouvoir et néanmoins engagé dans un dialogue avec ce dernier. Brigitte Adjamagbo Johnson, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris, en duplex à Paris et à Dakar. Dakar où nous retrouvons tout de suite Liliane, bien sûr.
Merci Francis. Les militants de l'opposition togolaise ont renoué cette semaine avec les manifestations malgré l'interdiction du gouvernement. Le gouvernement estime que les protestations ne devraient pas avoir lieu pour laisser une chance au dialogue politique en cours d'aboutir. Mais du côté des adversaires du pouvoir, on estime que les recommandations du médiateur ont été mal interprétées par les autorités. Pour l'opposition, la manifestation reste le seul moyen de débloquer la situation et de relancer le dialogue politique qui, comme je le disais, est au point mort. Alors, Dr Johnson, l'opposition a donc renoué, je le disais, avec la rue. Votre appel à manifester samedi a été maintenu et il est maintenu. Est-ce que vous partagez l'avis de certains Togolais qui soutiennent que la marche de mercredi n'a pas mobilisé grand monde? Est-ce qu'il y aurait un essoufflement de vos militants?
Pas du tout, madame. Je ne suis pas de cet avis. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que le régime a essayé de pousser la marche dans l'œuf. Il a déployé tout un arsenal de répression à Lomé, comme dans les autres villes où la marche devait se tenir. Et je vous vous assure que personne n'a échappé à cette répression. Les manifestants, comme les chefs de partis politiques, et la première journée de manifestation en particulier a été une journée mémorable. Et les manifestants, en tout cas le noyau dur, a tenu le coup. Et toute la journée, la ville de Lomé et certaines autres villes comme Palimé, Bafilo, Sokodé ont été vraiment animés. Alors j'espère bien que vous savez que même les chefs de parti que nous sommes, nous avons été, nos voitures ont été prises à saut par les forces spéciales de gendarmerie chargées pas du maintien de l'ordre, mais chargées de combattre le terrorisme.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de début d'essoufflement de votre mouvement et vous mettez la faible mobilisation observée selon certains mercredi lors de votre manifestation sur le compte de la répression policière, ce sont vos mots, mais ce que vous appelez la répression a été également observé au début de vos marches. Et pourtant, les Togolais, vos militants ont bravé tout ce déploiement sécuritaire et sont quand même venus dans la rue.
Non, madame. Ce qui s'est passé hier était comparable à ce qui s'était passé en octobre dernier. Je pense que ça devait être le 6 ou le 18 octobre, où tout a été fait pour empêcher les manifestants de se regrouper au point de départ la manifestation. Et cela a eu pour effet d'empêcher que de grands groupes se réunissent. Les manifestants se sont réfugiés dans les ruelles un peu partout dans les quartiers. Et la seule différence entre mercredi dernier et ce qui s'est passé le mois d'octobre, c'est qu'en octobre, on a sorti la milice du gouvernement qui a semé des désordres dans toute la ville, a réprimé. Hier, le gouvernement s'en est tenu à faire sortir la gendarmerie et des militaires aussi.
Merci.
Qui ont repris.
Merci.
Alors, moi, je vous donne rendez-vous demain samedi. Nous avons maintenu la manifestation qui est censée prendre fin.
Merci. Samedi, nous résorgerons l'émission vendredi. Francis ?
Oui, Brigitte Adjamagbo Johnson, vous en parlez il y a quelques instants. Jean-Pierre Fabre, un chef de file de l'opposition et président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, a été victime cette semaine d'une agression en pleine rue, agression attribuée aux forces de l'ordre. Une agression plutôt violente. Hein. Deux questions, Brigitte Adjamagbo Johnson. Que compte faire la coalition après ce que Jean-Pierre Fabre considère comme une tentative d'assassinat? Et deuxième question, que signifie encore un dialogue entre le pouvoir et l'opposition quand le chef de file de l'opposition s'expose à ce qui ressemblait cette semaine à une véritable expédition punitive de la part des forces de l'ordre?
Oui, alors, nous ne comptons pas laisser passer cette énième agression. En réalité, c'est par deux fois que tout le convoi du chef de parti a été agressé. Une première fois, du côté de la plage, où nous avons pu nous dégager parce qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation. Par contre, lorsque nous nous sommes rendus dans le nord-ouest de la ville, où il y avait une circulation monstre, la gendarmerie a pu nous coincer dans la circulation. Ce qu'ils ont fait, ils ont pu isoler les premiers véhicules. Le mien était en premier et celui de Jean-Pierre, plus un véhicule de sécurité. Ils ont isolé ces trois véhicules et ont pu avoir accès à Jean-Pierre, qui était le deuxième.
C'est ça.
Alors, nous ne comptons pas du tout laisser passer cette énième agression.
Quel est vous faites exactement? Vous allez déposer une plainte?
Et demain, nous prenons une manifestation pour montrer que nous avons peur, nous n'avons pas peur de ce que ce régime fait, croyant pouvoir faire émousser la détermination de la population et la nôtre. Nous sommes plus que jamais déterminés.
Mais comment pouvez-vous continuer, comment pouvez-vous continuer un dialogue? Parce que jusqu'à présent, le dialogue est toujours, il est juste suspendu. Hein. On peut considérer que ce dialogue est en cours. Comment pouvez-vous continuer un dialogue dans un tel contexte où on voit finalement une sorte de rodéo dans les rues de Lomé entre les forces de l'ordre et des leaders de l'opposition?
Vous avez raison de poser le problème et nous-mêmes nous nous demandons si le régime a véritablement envie que ce dialogue aboutisse. En ce qui nous concerne, nous avons bien précisé aux facilitateurs que le fait que nous reprenions les manifestations ne voulait pas dire que nous nous retirons du dialogue. Pour nous, le dialogue continue. Mmh. Mais il nous a semblé extrêmement important de marquer le coup pour que le régime sache que désormais, nous n'accepterons, nous ne le laisserons plus organiser les élections frauduleuses, comme il est en train d'en préparer encore. Et que pour nous, le droit de manifester est un droit fondamental. Mmh. Alors, nous avons bien entendu saisi le facilitateur suite aux événements du mercredi 11 avril, et nous espérons qu'il en tirera toutes les conclusions. Mmh. Et que cela lui donnera l'opportunité, en tout cas, de condamner de manière très claire et de préciser qu'il n'a jamais eu l'intention d'interdire le droit de manifester au Togo, un droit que nous avons acquis de haut public.
Madame...
Une fois que cela sera fait, eh bien, nous, on est disposés à continuer le dialogue. Et vous savez pourquoi? Parce que nous croyons que une solution négociée est la meilleure. Oui.
Madame Johnson, vous avez dit en répondant à la question de Francis tout à l'heure que vous n'entendez pas laisser passer ce que vous qualifiez de tentative d'atteinte à la vie du chef de file opposition, Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce que l'opposition entend concrètement faire? Et deuxième question, pour vous, le dialogue reste la seule solution, vous venez de l'affirmer, mais est-ce que vous renouvelez votre confiance au médiateur qu'est le président ghanéen?
Oui, j'allais compléter votre question, Liliane, si vous permettez, Madame Adjamagbo Johnson, juste compléter la question de Liliane. Est-ce que le facilitateur du dialogue, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, n'a pas sous-estimé finalement la complexité de la crise de votre pays? Est-ce qu'il n'est pas dépassé par le cours des événements?
Mais écoutez, d'abord pour répondre à la question de Liliane, je voudrais préciser, nous allons entreprendre une action en justice. Nous allons porter plainte. D'abord au niveau des juridictions togolaises, et si nous n'avons pas d'une cause, eh bien, aujourd'hui on sait qu'il y a des recours sur le plan régional africain et sur le plan international, nous ne lâcherons pas.
Vous portez plainte contre qui? Plainte contre X?
Nous allons porter plainte contre X. Nous allons porter plainte contre X et nous sommes d'ores et déjà en train de documenter ce qui s'est passé. On peut reconnaître ceux qui étaient impliqués dans l'action et il nous faut pour nous, il est important de savoir qui sont les donneurs d'autres, autant que les exécutants. Et donc, vous posez la question de savoir est-ce que nous faisons encore confiance aux facilitateurs. Bien sûr.
Non, c'était pas ma question. C'était de savoir s'il n'était pas lui-même dépassé par la complexité de la crise. Est-ce que sa facilitation est adaptée à la nature de la crise en cours dans votre pays?
Eh bien, écoutez, il appartient aux facilitateurs. Nous lui faisons confiance pour que si après analyse, il constate que finalement le problème est tellement complexe qu'il est déplacé, il est dépassé, eh bien, on pourra trouver des solutions. C'est à lui de tirer les conclusions du processus tel qu'il évolue jusqu'à présent, et nous lui faisons confiance.
Et quand vous dites à lui de tirer les conclusions, peut-être pour passer la main à une autre entité ou une autre personne pour assurer la médiation ou la facilitation, est-ce que vous pensez par exemple à l'Église catholique togolaise?
Mais,
ou
madame,
toute autre institution?
Il y a certainement d'autres possibilités à explorer, mais je doute fort de ce que une solution à la togolaise soit encore possible. Voyez-vous, le régime, il est tellement obnubilé par la nécessité pour lui de se maintenir que il est sourd.
Oui, oui, mais madame, vous accusez le pouvoir d'être responsable du blocage quand vous dites qu'il est sourd. Est-ce que le problème c'est situé au niveau de la médiation? Est-ce que le problème n'est pas en réalité les exigences inconciliables, les demandes inconciliables d'un camp comme de l'autre? C'est-à-dire, vous dites, nous voulons le départ de Fornia Simbé ou à défaut une transition qui va s'achever en 2020 avec l'engagement de sa part de ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et de l'autre côté, le pouvoir dit, nous ne signerons aucun accord qui empêche le président Fornia Simbé d'être candidat en 2020. Est-ce que le problème, c'est réellement celui de facilitateur ou ce sont les positions tranchées?
Madame, je suis désolée, le problème du peuple togolais à l'origine, ce n'était pas de savoir si M. Fornia Simbé sera candidat en 2020 ou pas. Le problème, il est plus grave. Le problème est que le peuple togolais en a marre, il veut rompre avec plus de 50 ans d'un régime dictatorial qui plus est incarné par une seule famille. Alors, nous avons, c'est pour ça que le peuple a dit, puisque vous avez, pour vous maintenir au pouvoir, refusé de faire des réformes qu'on vous a réclamées pendant 11 ans, parce que dites-vous bien, madame, nous avions déjà signé le dernier accord politique en 2006, et si M. Fornia Simbé avait fait les réformes comme le préconisait cet accord-là, eh bien aujourd'hui, le Togo n'aurait plus aucun problème.
Bien sûr, alors, madame, vous avez, oui, vous l'avez, l'opposition l'a souvent dit, le problème c'est le régime de père en fils, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les deux positions tranchées, de part comme les deux positions sont tranchées, et il n'est pas facile pour un médiateur, quel qu'il soit, peut-être de trouver un accord. Qu'est-ce qui ferait le consensus?
Madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Les positions ne sont pas tranchées. À la dernière séance du dialogue que nous avons eue, le facilitateur nous a demandé de dire quelles sont les positions limites que nous ne ferions dépasser. Et la coalition, dans les discussions avec le facilitateur, a fait l'effort d'accepter que le retour à la Constitution de 92 soit réalisé par une manière simple, consistant à réintroduire les dispositions qui ont été ôtées de la Constitution. Et par contre, ce que nous avons dit, c'est que nous n'accepterons pas que M. Fornia Simbé se présente en 2020.
Merci, madame. Par contre, madame, on va vous donner la parole tout à l'heure pour poursuivre. Vous allez reprendre la parole dans quelques instants.
C'est important ce que je voulais vous dire.
Madame, vous allez reprendre juste après une pause obligatoire, s'il vous plaît.
On va devoir marquer une pause. On va devoir marquer une pause.
Le débat Africa BBC.
En duplex à Dakar et Paris, issu du débat BBC Afrique, Africa numéro 1, Paris. Notre grand témoin invité au téléphone depuis Lomé, Kafui Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition de l'opposition au Togo. Et notre confrère invité dans cette édition depuis Bangui, au téléphone Emmanuel Cyrus Sandi, directeur de la publication et rédacteur en chef du quotidien Média Plus. On poursuit ce débat, enfin le sujet de la crise du togolaise, pardon. Et on va vous laisser terminer votre propos, Madame Johnson, qu'on a interrompu juste avant la pause, et on aura encore quelques questions à vous poser, bien sûr.
Voilà, merci beaucoup. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que le régime n'a pas bougé d'un seul iota de sa position sur le problème de fond que le peuple togolais pose. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a deux positions inconciliables. Ce qui est juste, c'est de faire observer que le régime est resté sur sa position de départ depuis que le peuple a toujours dit « nous voulons le départ immédiat, le retour à la Constitution, le départ immédiat ». Le régime a dit « non seulement je ne partirai pas maintenant, mais je ne partirai pas en 2020 non plus ». C'est ce qu'il a continué à répéter lorsque on nous a posé la question de confiance.
D'accord.
J'espère bien que vous comprenez, madame.
Merci, madame.
Oui. Alors, avant de donner la parole à notre confrère Abangui qui va porter son regard sur cette situation au Togo, on évoquait il y a quelques instants, madame Adamabo Johnson, un dialogue de sourds entre pouvoir et opposition. Et quel serait le plan B de la coalition de l'opposition, mis à part les marches et manifestations et mis à part le dialogue?
Non, mais vous savez, les manifestations constituent l'arme absolue à plus du peuple. Elles ont montré leur efficacité dans d'autres contextes. Et nous sommes convaincus que dans le contexte togolais aussi, eh bien, ces manifestations seront efficaces. La preuve, c'est pour ça que le régime a tout fait pour déjà nous empêcher de manifester en octobre dernier, pour arrêter les manifestations, ce à quoi nous avons résisté, ce qui l'a amené à sortir ces milices. Cette fois-ci encore, il y a une tentative pour enrayer le droit de manifester. Ça veut dire que les manifestations font mal et peuvent nous amener à obtenir les résultats que nous recherchons.
Oui, mais le bras de fer peut durer indéfiniment, Madame Johnson. Alors, si le bras de fer perdurait, est-ce que vous avez, en tant que coalition d'opposition constituée, un plan B, une autre stratégie au-delà de ces manifestations et de ces marches?
Mais vous comprenez bien, Monsieur Laloupo, que si nous avons un plan B, ce n'est pas sur les médias.
Ah bon.
Mais au moins, nous savons que vous avez un plan B à la mobilisation. Parce que je pense que Francis pose la question parce que vous venez vous-même d'admettre que le pouvoir a déployé des forces de sécurité mercredi dernier pour empêcher l'opposition de manifester. Si vous n'arrivez plus à mobiliser vos militants dans la rue en raison justement de déploiement sécuritaire, que vous reste-t-il? Je crois que c'était ça la question. Que vous reste-t-il?
Moi je conseille au régime, nous conseillons au régime d'arrêter rapidement ce jeu, parce qu'il risque, à force de jouer à ce jeu, d'entraîner le pays dans le chaos. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous, à la coalition, en tant que responsables politiques, nous avons une vision de règlement pacifique du conflit togolais, mais il ne faut pas qu'ils pensent que tous les Togolais qui veulent le changement sont dans cette logique.
Madame,
Brigitte
Adjamagbo Johnson, à vous écouter, vous pariez en fait sur un changement de nature de ce régime. Vous avez même évoqué dans une déclaration récente l'éthique et la morale. Est-ce que vous y croyez vraiment à un changement de nature soudain de ce régime?
Mais c'est-à-dire que c'est un changement profond que nous recherchons. Mais ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une rupture, au moins, qui nous permette de changer profondément ce système-là qui nous a gouvernés pendant plus de 50 ans et auquel nous avons tous participé. Ça va être un long processus de déconstruction et de reconstruction. Mais il faut qu'il démarre et c'est ce que nous cherchons à faire.
Merci. Nous allons écouter, j'ai encore une dernière question pour vous, madame, mais on va écouter notre confrère Emmanuel Sirius.
Gardez votre dernière
qui,
question.
Voilà. Vous avez longuement écouté, Emmanuel, les explications de madame Johnson sur le bras de fer avec le pouvoir. Une impression, un commentaire global?
Tout à fait, madame. Je voudrais saluer la sagesse de la classe politique togolaise, que ce soit du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, on obtient une certaine volonté d'aller au dialogue, n'est-ce pas? Parce que dans des situations comme celle-ci, rien ne doit être mis de côté pour favoriser en tout cas le dialogue pour entretenir cela. Mais je voudrais quand même dire ici que, tout en reconnaissant la sagesse du président ghanéen Nana Akufo, n'est-ce pas, par rapport à ce dossier, il me semble que il devrait avoir quand même certaines conditions, sinon certaines préconditions pour ce dialogue. Je pense par exemple que le médiateur aurait dû négocier au niveau des deux parties une trêve. une trêve pour l'opposition, que l'opposition cesse avec tout ce qui est manifestation publique, par exemple.
Ça a été fait, Emmanuel. L'opposition avait suspendu ses manifestations et c'est face au blocage observé que l'opposition a... l'opposition estime qu'il y a blocage et c'est pour cela qu'elle a à nouveau appelé ses militants dans la rue cette semaine.
Justement, je voudrais quand même dire que, bon, si on parle de trêve, ce n'est pas une trêve pour un ou deux jours. Moi, je voudrais qu'il y ait une trêve pour toute la durée, en tout cas, de ce dialogue-là, de cette médiation. Ce n'est quand même pas une médiation qui va durer un an. Ce n'est pas une médiation qui va s'éterniser. Peut-être dans un ou deux mois, on verra et le président Koufor aura à accorder les violons pour que les thèmes, l'essentiel vraiment de ce dialogue que tous les Togolais appellent de leur vœu, soit fermé et que les gens puissent aller à l'essentiel.
Donc vous pensez que l'opposition a manqué de patience?
Tout à fait. Moi, je dis que l'opposition a manqué de patience. Mais aussi, le pouvoir également, comme tous les autres pouvoirs africains, doivent cesser avec cette manière-là, n'est-ce pas, de brutaliser les opposants, de chasser à leur...
Merci.
À leur faire du mal.
Merci. Et pouvoir et opposition mis dos à dos.
Un leader politique, voilà, de part et d'autre, voilà, il devait avoir trêve, même par rapport à des cours, il y a des situations, hein, que le pouvoir devait quand même comprendre que ceux qui viennent pour négocier ont droit à la vie, ils ont droit à la liberté d'aller et venir, et qu'on ne puisse pas atteindre à la vie d'un Togolais, ce qui, en tout cas, leur périsse au pouvoir.
Merci. Donc, pardon voilà, de vous interrompre, Emmanuel, le temps file. Je tiens vraiment... Oui, elle va réagir au propos d'Emmanuel, mais je voulais que Mme Johnson commente rapidement la position de la CEDEAO. Samedi, une réunion extraordinaire de l'organisation qui réunit les pays d'Afrique de l'Ouest se tient dans votre pays, non pas pour parler de la crise togolaise, mais de la crise bissau-guinéenne. Est-ce que vous pensez, Mme Johnson, que vous considérez-vous que la CEDEAO roule pour le pouvoir ou a-t-elle la position qu'on dirait objective sur la crise dans votre pays, évidemment en réagissant aussi aux propos d'Emmanuel?
Non, madame, les choses sont plus complexes que ça. Je ne dirais pas que la CEDEAO roule pour le pouvoir. Mais je prends acte de ce que la Guinée-Bissau, qui est un pays frère aussi, traverse des moments difficiles. Par contre, là où je suis étonnée, c'est que le règlement de cette crise soit placé sous l'autorité de M. Faure Gnassingbé, qui n'a aucune autorité morale, en fait. Vous ne pouvez pas manquer autant de sagesse dans votre propre pays. Vous ne pouvez pas montrer autant d'incapacité à régler un conflit qui vous touche directement et prétendre vouloir régler des conflits ailleurs.
Je crois qu'il est toujours le président en exercice de la CEDEAO.
Pardon?
Il est toujours président en exercice de la CEDEAO.
Ah oui, mais la question se pose même de savoir s'il mérite toujours d'être à ce poste. Comment pouvez-vous être président en exercice de la CEDEAO quand vous n'êtes pas en conformité, vous ne gouvernez pas en conformité avec les principes et les valeurs de la CEDEAO?
Merci, madame.
Le pays de la CEDEAO à ne pas avoir de limitation de mandat présidentiel à ce jour.
Merci. En 30 secondes, madame, le manque de patience de l'opposition dont parlait Emmanuel, en 30 secondes, s'il vous plaît.
Je pense que c'est une appréhension inexacte de la situation qui l'amène à considérer que l'opposition manque de patience. Il fallait que l'opposition réagisse pour mettre un arrêt à la préparation unilatérale d'élections frauduleuses par le régime. Figurez-vous que c'est par ce mécanisme que le régime se maintient depuis le début des années 90, où nous avons obtenu l'organisation d'élections pluralistes.
Merci.
On donne l'impression de jouer au jeu démocratique, d'organiser des élections pluralistes, mais on met tout en jeu pour kidnapper et gagner. Nous avons, ça aussi, nous n'en voulons plus. Nous avons dit, nous sommes très vigilants. Et donc, il fallait absolument qu'on réagisse, que les jeunes comprennent que nous accepterons plus.
Merci, madame.
De jouer à ce jeu. Et le droit de manifester est un droit fondamental, un droit constitutionnel qui ne saurait souffrir d'aucune atteinte.
Merci, madame. On va passer au prochain sujet, s'il vous plaît.
Nous sommes dans la position, madame, de gens qui ont les mains attachées au dos et qui reçoivent de l'adversaire sans pouvoir ni les pincer, ni les rendre.
Merci beaucoup.
Le débat, BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
En duplex à Dakar et Paris, notre grand témoin invité depuis Lomé au téléphone, Kafoui Brigitte Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la coalition de l'opposition au Togo. Et notre confrère invité depuis Bangui au téléphone, Emmanuel Cyrus Sandi, directeur de la publication et rédacteur en chef du quotidien Média Plus, édité à Bangui en Centrafrique. La Centrafrique, justement, deuxième sujet de cette édition, le pouvoir centrafricain dans le viseur de groupes armés. C'était mercredi dernier, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a alerté la population sur les affrontements en cours dans la capitale. Selon lui, des individus armés, qualifiés de bandits, avaient pris la population en otage dans le quartier majoritairement musulman du PK5 à Bangui. Des affrontements opposant des milices du quartier du PK5 au casque bleu de la MINUSCA, conjointement déployés avec des soldats centrafricains, auront fait cette semaine au moins 24 morts, dont un casque bleu et une centaine de blessés. C'est la première fois depuis l'élection en 2016 du président Touadéra que des violences de cette nature et d'une telle intensité se déroulent dans la capitale centrafricaine. Alors que la MINUSCA et les forces de sécurité centrafricaines indiquent avoir lancé une opération militaire contre les groupes armés du quartier PK5, certains miliciens dénoncent une opération anti-musulman et n'hésitent pas à réclamer la fin du régime du président Touadéra. Première question pour vous, évidemment, Emmanuel Cyrus Sandi. Et que s'est-il passé exactement cette semaine? Est-ce que c'est une opération de désarmement des groupes armés qui a dérapé, une tentative de coup d'État contre, comme le disent certains? Dites-nous exactement la situation telle qu'elle s'est produite cette semaine à Bangui.
Francis, avant que Emmanuel ne réponde à votre question, oui, on va écouter ce reportage du correspondant de la BBC Africa à Bangui sur la colère des populations du PK5 qui ont déposé les corps de ces civils devant le quartier général de la MINUSCA pour protester contre la mort de ces civils. On écoute donc le reportage de Max Alaroum.
Première réaction, celle des habitants de PK5 qui, en transportant ces cadavres devant la base de la MINUSCA, entendent ainsi attirer l'attention de la communauté internationale. Moustapha Younous, président de la jeunesse islamique de Centrafrique, leur porte-parole.
Les autorités qui ont dit qu'il n'y a pas eu de victimes et l'opération a réussi. Et nous, au niveau du climat, on sait qu'il y a des victimes. Nous avons vu mieux d'amener ces corps-là ici au niveau de la MINUSCA pour montrer à la communauté nationale et internationale que l'attaque d'hier a fait beaucoup de victimes dans le troisième arrondissement.
Côté MINUSCA, on dénonce l'instrumentalisation des cadavres. Vladimir Monteiro, porte-parole de la munition onusienne en Centrafrique.
Les corps méritent un traitement digne. Et en procédant de la sorte, les gens n'ont pas respecté les us et coutumes auxquels un corps a droit.
Cependant, dans plusieurs villes du Nord, les membres de l'ex-rébellion Séléka organisent des journées villes mortes en signe de solidarité, disent-ils, avec la communauté musulmane de Bangui. Des pourparlers ont été ouverts en vue de trouver une solution à ce problème de désarmement qui a ensanglanté le secteur. Max Alaroum Bangui pour BBC Afrique.
Merci Liliane. On va écouter Emmanuel Cyrus Sandi. Emmanuel, vous êtes avec nous?
Alors,
quelle est la situation?
Qu'est-ce qui s'est passé exactement au kilomètre 5 avant? Dans la nuit de samedi à dimanche 8 avril, précisément à 2h du matin, un groupe de soldats de la MINUSCA, la mission de paix onusienne en Centrafrique, a bouclé l'enclave musulmane du kilomètre 5 sous prétexte d'arrêt arrêté un chef de groupe de défense nommé Force, c'est un fabriqué Force de Centre, Brennan Al-Numeri Mokhtar. Cette opération a raté, n'est-ce pas? La fin de l'arrestation a échoué simplement parce que, et selon certaines indiscrétions et des gens également dit de foi, une partie même des officiers de la MINUSCA avait vendu la mèche, avait informé ou aurait informé M. Force qui devrait être arrêté très tôt le matin de dimanche. Et donc ce dernier a pris ses dispositions. Il a donc monté ses éléments pour organiser une résistance. Il y a eu une résistance farouche toute la nuit jusqu'aux environs de 6h du matin, ce qui a obligé d'autres éléments de la MINUSCA de venir en renfort. Il faut préciser que les casques bleus qui étaient partis pour arrêter comme force sont ceux du contingent égyptien. Mais bizarrement, ceux qui étaient envoyés à un moment donné sachant que leur opération allait échouer, ont commencé à s'entretenir avec les sujets musulmans du kilomètre 5 en langue arabe. Ce qui a gêné certains éléments du contingent MINUSCA qui ont demandé le remplacement du contingent égyptien par d'autres. C'est ainsi que les contingents du Portugal et du Rwanda sont entrés dans la danse. Et donc, pour la journée du lundi jusqu'au mardi, la situation était vraiment tendue parce qu'on ne comprenait pas que pour un individu qui devrait être arrêté, c'est toute l'enclave musulmane du kilomètre 5 pratiquement qui s'était mobilisée. Ils ont sorti avec des armes terribles. Et nous, on a vu les armes qui étaient lancées. Certaines même sont tombées dans les quartiers environnants.
Merci.
Des armes d'explosion massives, genre mortier, 60 par exemple. Et donc, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'au début, on a parlé de l'arrestation de M. Force.
Mais on a bien compris, Francis.
Oui, allez-y, Lilian.
D'accord. Mais excusez-moi. Voilà, on a compris que vous êtes en train de dire que la MINUSCA a mal géré cette opération. Mais je voudrais m'attarder sur vos propos, Emmanuel. Vous êtes en train de dire qu'il y a eu une complicité entre les milices qui contrôlent kilomètre 5 et la MINUSCA. Et cette accusation que vous formulez, est-ce que cela est le fruit d'une enquête journalistique que vous avez menée?
C'est une enquête qu'on a menée depuis longtemps, c'est connu. Les organisations de la société civile en parlent depuis longtemps. Et ce n'est pas seulement au niveau de Bangui, même dans l'arrière-pays. Il y a eu plusieurs fois, on a vu les soldats même de la MINUSCA aller remettre des armes et des munitions. Mais pas aux actes de
c'est très
mètres.
Grave ce que vous dites.
Tout comme à Bombay,
exactement.
On a vu,
c'est gravissime.
Allez-y.
C'est vrai. Tout comme à Bombay et ailleurs, on a vu des éléments de la MINUSCA appeler les anti-Balaka pour leur donner des armes pour aller contre les musulmans. Là, c'est connu, c'est documenté, c'est on en a parlé, nous, de MINUSCA. On a interpellé, n'est-ce pas, les autorités de la MINUSCA par rapport à cela. Ils nous ont promis des enquêtes, mais. On attend toujours qu'ils nous disent.
Emmanuel, c'est vrai que certains éléments des groupes armés ont dénoncé cette semaine une opération de désarmement unilatérale qui viserait essentiellement les musulmans de l'ex-rébellion Séléka, qui eux-mêmes donc accusent depuis quelque temps le pouvoir du président Touadéra de connivence avec les milices anti-Balaka opposées donc au Séléka. Est-ce que vous pouvez dire très clairement que le pouvoir s'est montré plus conciliant avec les anti-Balaka au détriment des Séléka depuis 2 ans?
Mais le pouvoir est conciliant avec tous les deux camps, aussi bien les anti-Balaka que les Séléka, parce que ils sont dans le gouvernement, ils sont dans le cabinet de la première de la République, en violation de la Constitution. Vous savez, l'article 28 de la Constitution interdit à tous les leaders politico-militaires, à tous ceux qui ont œuvré, qui ont manœuvré, qui ont soutenu les groupes armés, les groupes qui ont commis des exactions sur les droits de l'homme, d'occuper de hautes fonctions d'État. Et ça, le président doit dire, le chef d'État lui-même, il est au courant. Hein, pendant nos conférences de presse, on l'interpelle souvent là-dessus, mais il y a un refrain qui est là, il paraît que la paix n'a pas de prix. Donc
il faut dialoguer.
On peut faire n'importe quoi pour nous qu'on ait la paix. C'est ça.
Emmanuel.
J'allais en venir parce que, en fait, l'opération, c'était pour arrêter un seul individu. Mais c'est parce que ça a échoué qu'on a parlé d'opération de désarmement.
D'accord. Donc vous dites que c'est parce qu'il y a eu fuite. Il y a une fuite orchestrée par la MINUSCA.
Mais je vous informe qu'il y a un cadre juridique et institutionnel dans ce pays, n'est-ce pas, pour gérer le DDRR, le désarmement.
Démobilisation, réinsertion.
Rapatriement et réinsertion. Voilà, juste là. On n'a pas encore commencé le désarmement à proprement parler. Nous sommes dans le pré-DDR. Le pré-DDR, c'est quoi? C'est que les groupes armés qui ont accepté de signer, n'est-ce pas, le cadre opérationnel et stratégique de DDR acceptent d'envoyer 40 de leurs éléments pour qu'ils soient formés à la discipline militaire. Et la deuxième promotion est en formation. Donc, ils sont là, on les forme, après on les recrute comme des soldats des forces armées centrafricaines, les FATA à part entière.
Donc, en résumé, c'est une opération dirigée contre un seul homme, contre un milicien, donc nommé Force, qui aurait dérapé, c'est ça?
Ça a dérapé. On a besoin de désarmement. Or, le désarmement volontaire devait précéder le désarmement forcé.
Voilà. À ce sujet, Emmanuel, est-ce que les groupes armés, face à ce que vous qualifiez d'opération, de l'opération Non, de l'opération de la MINUSCA qui a échoué. Est-ce que finalement les groupes armés ne sortent pas renforcés de cette opération puisque vous-même, vous nous dites que la MINUSCA a organisé la fuite. Est-ce qu'elle est encore légitime aujourd'hui pour mener ces opérations d'arrestation des milices, des chefs des milices armées?
C'est là toute la question. Mais je voudrais préciser que le désarmement forcé est toujours précisé du désarmement volontaire. On devrait donner du temps à tous ceux qui détiennent des armes d'aller volontairement remettre leurs armes.
Vous, oui, vous l'avez dit, Emmanuel. Ma question consiste à savoir, aujourd'hui, est-ce que la MINUSCA est encore légitime? Est-ce que la MINUSCA est encore légitime pour mener cette opération d'arrestation des chefs de milice accusés de commettre des exactions sur les populations?
Mais madame, je ne vais pas utiliser la langue de bois pour vous dire que la MINUSCA n'a aucune crédibilité aux yeux de la police africaine tout entière.
Oui. Si la MINUSCA n'a plus de crédibilité, n'a plus de légitimité, qui peut donc mener cette opération d'arrestation de ces chefs de milice, étant donné que les FACA n'existent pas?
Pour nous, et par rapport à ce qui constitue le temps de relevé de construire de la paix, il doit y avoir la place pour la justice. C'est-à-dire que ce qu'on ne comprend pas, c'est quoi? On ne comprend pas que d'un moment à l'autre, la MINUSCA décide comme ça d'aller arrêter.
Oui, on l'a bien compris.
Dans ce même quartier, dans ce même enclave, il y a eu des gens qui ont commis des pires abominations, mais qui n'ont jamais été arrêtés.
D'accord, vous demandez la justice, mais comment arrêter ce chef de milice si la MINUSCA ne peut pas mener cette opération? S'il faut les traduire en justice, il faut pouvoir les arrêter.
Que la MINUSCA mène cette opération en concertation avec la justice, et que je sache, il n'y a pas eu un mandat d'arrêt remis à la MINUSCA pour exécuter cela. C'est ça le problème.
Merci. On va écouter Madame Johnson en un mot sur cette situation tendue en Centrafrique. Madame Johnson?
Mais je suis vraiment désolée. Je me sens solidaire véritablement avec les populations centrafricaines. Et je voudrais faire observer qu'en Afrique, nous devrons absolument faire des efforts pour éviter d'en arriver à ces situations qui tiennent à ce que les États ne sont pas adossés souvent à des institutions fortes. C'est ça qui laisse la place à ces limites privées, alors qu'un État démocratique fort devrait pouvoir avoir le monopole de la violence et avoir une institution telle que l'armée devrait exister dans ce pays et jouer le rôle qu'il faut.
Merci, madame.
Alors,
la Centrafrique a un vrai panier à crabe. Madame.
Nous pensons que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités pour réformer cette MINUSCA et faire en sorte qu'elle soit vraiment utile, qu'elle retrouve une crédibilité et soit utile.
Merci.
Bon, cela dit, on n'a pas vérifié les sources d'Emmanuel Cyril-Sandy qui a émis quand même des accusations très graves à l'encontre de la MINUSCA, donc que cela reste en suspens. On va pouvoir passer à un autre sujet sans transition.
Oui, rapidement, en 4 minutes à peine pour parler de ces ressortissants tchadiens qui ne sont plus indésirables aux États-Unis. La sanction américaine a été levée mardi. Le Tchad a dû accepter de mettre à niveau ses normes de sécurité pour qu'elles correspondent aux exigences de base de la sécurité nationale américaine. En tout cas, c'est ce que a dit la Maison-Blanche. Selon vous, Madame Johnson, la levée de cette interdiction aurait-elle fait l'objet de marchandages particuliers ou d'autres arrangements? Et annonce-t-elle une relation peut-être plus renforcée entre Washington et N'Djamena?
Non, ce qui est évident, c'est que on a besoin du Tchad aujourd'hui qui joue un rôle primordial dans la lutte contre le djihadisme et le terrorisme. Nous avons vu comment au G5, les États membres se sont mobilisés pour soutenir le Tchad et demander à ce que les sanctions soient levées. Aujourd'hui, ces sanctions sont levées parce que les États-Unis ont dû faire preuve de réalisme. Mais moi, ce que je voulais faire observer, c'est que c'est bien souvent d'utiliser les États pour défendre des causes internationales. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment hein, des populations qui sont concernées. Aujourd'hui, je fais observer que M. Idriss Déby est tenu, alors que face à son peuple, il passe pour un dictateur. La preuve, c'est quelqu'un qui a tout fait pour être dans la position de président à vie. Ça crée d'autres problèmes à terme.
Vous voulez évoquer les conclusions du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles boycottées par l'opposition. Merci, madame. Francis ?
Non, je vais juste compléter, madame Adiamago Johnson. Il faut dire qu'on ne sait toujours pas, au fond, sur quels éléments précis s'était fondée cette interdiction énoncée par Donald Trump d'accès au territoire américain des Tchadiens. Est-ce qu'on peut parler, au fond, d'une décision fantaisiste du président américain ou pas ?
Mais oui, la décision avait l'air fantaisiste au départ, et les États-Unis sont revenus à la raison. Mais moi, ce que je dis, c'est que il faut quand même observer que ce n'est pas un régime vertueux que nous avons là-bas au Tchad. Et je me sens plutôt solidaire avec les Tchadiens qui se battent aujourd'hui contre Idriss Déby. Mmh.
Un commentaire sur ce sujet, Emmanuel Cyrus Sandy.
Et j'allais peut-être vous demander, Emmanuel, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre cette décision et les conclusions du Forum national inclusif, parce que la décision intervient 2 semaines juste après cette rencontre?
Peut-être que c'est une coïncidence heureuse. Je sais quand même durant ces 5 dernières années, la diplomatie italienne est très offensive et porte des fruits.
On parlait d'une coïncidence heureuse.
Oui, une coïncidence heureuse. Le Tchad est fortement représenté dans les instances internationales et même au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de la CAC, de la CEMAC, de l'Union africaine. La plupart, le président de la Commission de l'Union africaine, c'est un Tchadien. Donc, il faut reconnaître que le Tchad a redoré sa diplomatie et est capable de faire mieux pour son peuple. Actuellement, ce que je voudrais faire observer, c'est que généralement, ce genre de décision lèse, n'est-ce pas, les citoyens innocents. Je ne pense pas que s'il y avait quelque chose à reprocher au président Déby, ce ne sont pas tous les Tchadiens qui devraient être concernés et puis subir cette peine. Hein, c'est ça vraiment la préoccupation, quoi.
Donc pour vous, c'est une victoire de la diplomatie tchadienne. Il faut dire que beaucoup de diplomates américains s'étaient aussi opposés à cette décision de Donald Trump, hein, rappelant d'ailleurs les liens forts entre les deux pays, sur les questions sécuritaires, par exemple, et même les questions économiques.
Oui. Je pense que ça, c'est une victoire de la diplomatie tchadienne, hein, qui a su recadrer, aller à l'essentiel, certainement. Pendant ce forum-là, tout le monde a été agité. Bon, il va sans dire que certains avaient exploité cette situation-là pour dire tout le mal qu'ils pensaient du président Déby. Ça, c'est évident. C'est comme ça le jeu démocratique. Mais l'essentiel est déjà fait.
Cela reste un régime très contesté de l'intérieur, tout de même, Emmanuel.
Tout à fait. Et même de l'extérieur, pourquoi pas?
Et même de l'extérieur.
C'est mon voisin, le Tchad. C'est notre voisin. Nous savons ce que le Tchad a fait du mal contre la RPA. Mm. Ça, je le dis encore, vous aurez à dire que c'est des propos graves. Mais nous savons que entre la RPA et le Tchad, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas.
Nous ne disons cela que quand vos propos sont graves. Ne vous inquiétez pas, nous ne relevons que le programme.
Concluez
rapidement, on va pouvoir écouter juste après les messages de nos auditeurs.
Nous avons souhaité depuis toujours que la grande commission mixte Tchad-RPA se tienne pour que certaines choses soient dites, parce que nous, on n'arrive pas à comprendre que le Tchad, par exemple, avait décidé unilatéralement de fermer ses frontières avec nous, mais curieusement, tous les grands bandits ex-Séléka, les rebelles là, ils ne sont que venus du Tchad pour nous emmerder. Alors que je vous parle tous les jours que Dieu fait vers Paoua, vers Martinda, vers Cabo, n'est pas les rebelles viennent pour assiéger une bonne partie.
Donc vous dites que le Tchad constitue une base arrière pour les groupes armés dans votre pays. Merci beaucoup, Emmanuel.
On s'est un peu éloigné de la question américaine.
Exactement.
Mais on va écouter nos auditeurs. Hein. Nous avons des messages sur Internet, bien sûr. Messages recueillis et livrés à présent par Richard Mboué.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici les réactions des internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Togo, Charles Bazema se demande si l'opposition n'exagère pas sur la situation sociopolitique en cours dans le pays. Et notre fidèle auditeur du Burkina Faso de penser que la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, la MINUSCA, se doit de combattre tous les groupes armés et non de ne cibler que quelques-uns et d'en laisser certains autres, comme on l'a vu au Mali, Dixit, notre auditeur de Ouagadougou. Merci à Ange Nomeyo du Togo, Raoul Léonard Ndoncho du Cameroun et Fadil Zeba du Burkina Faso qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa 1 et sur notre compte Twitter @débat BBC Africa. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci Richard.
Une conclusion peut-être générale sur la situation de votre pays, Madame Johnson, et quelle peut finalement être la solution pour régler cette crise politique?
Eh bien, nous espérons, comme je le disais tantôt, le dialogue, à travers ce dialogue-là, nous allons pouvoir trouver des solutions durables à cette crise. Il nous faut absolument résoudre cette crise. Nous ne pouvons plus nous permettre d'aller de dialogue en dialogue. Nous sommes ensemble d'un 7e dialogue, pour ceux qui ne le savent pas, et nous espérons que ce sera le dernier. Nous voulons que ce soit par le dialogue que la solution soit trouvée, sinon nous irons vers le pire.
Merci, Dr. Johnson.
Merci beaucoup, mais c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Brigitte Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la coalition de l'opposition au Togo. Merci à notre confrère Emmanuel Cyrus Sandi, qui est avec nous au téléphone depuis Bangui, directeur de la publication et rédacteur en chef du quotidien Média Plus. Bonne journée à vous à Bangui. Bonne journée, oui, à vous, Emmanuel Cyrus Sandi, à Bangui. L'émission a été réalisée à Dakar par Noël Acapo, régie technique assurée à Paris par Simon Ross. Chargé de production, Sandra Bassabam et Richard Thierry Umbwe Kidjina. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous, Liliane, la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1, Paris. Bon week-end à vous.
Oui, merci Francis. Une nouvelle édition au cours de laquelle on décryptera, grâce à nos invités, encore Francis, l'actualité africaine de la semaine. Bon week-end à vous et bon week-end à nos auditeurs.
Bon week-end encore.